Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je reçois Pascal Mériot de l'association On a marché sur la bulle et ce afin qu'il nous présente les événements de début avril. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, pourriez-vous nous présenter On a marché sur la bulle, pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors On a marché sur la bulle, c'est l'association qui a créé les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens il y a de ça maintenant 26 ans. Et qui la porte encore aujourd'hui, et de cet événement est né ce qu'on qualifie aujourd'hui de pôle BD Hauts-de-France, dans lequel on a à la fois le travail lié au festival, évidemment, qui aura lieu tout le mois de juin, à la Halle Fraissinet et partout dans la ville avec nos partenaires culturels, et puis aussi une équipe de permanents qui travaille sur le champ éducatif dans les Hauts-de-France, et puis également un centre de ressources qui aide quiconque a envie de faire quelque chose sur la bande dessinée en région, et parfois au-delà aussi en créant des expositions, des outils de médiation, et puis aussi enfin au sein de ce pôle une maison d'édition, les éditions de La Gouttière, qui travaille essentiellement sur la bande dessinée jeunesse.
Et vous organisez plusieurs événements sur l'année, notamment, donc on en a parlé, le Festival de la bande dessinée. En parlant d'événements, il y a récemment une exposition, d'ailleurs qui est toujours en cours, avec la Maison de la Culture, qui s'appelle Bécassine, une héroïne de notre temps, c'est bien ça?
Voilà, avec la Maison de la Culture, avec l'Université de Picardie Jules Verne, et avec la toute récente association des amis de Joseph Porphyre Pinchon, parce qu'il y a une étrangeté à Amiens. Il y a un personnage célèbre, inconnu à la fois. Pinchon, c'est le créateur de Bécassine. Donc le nom de Bécassine dit des choses à pas mal de monde. Parfois pour une chanson un peu naïve des années 80. Parfois pour un film récent de Podalides. Parfois pour des bandes dessinées. Et Pinchon est né à Amiens. Il est mort à Amiens. Il a créé cette licence, entre guillemets, majeure dans l'histoire de la bande dessinée. Et en même temps complètement cachée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de lui. Sa tombe au cimetière Saint-Acheul est assez modeste. C'est rien de le dire. Et on travaille, et même au sein de l'association, on n'a jamais travaillé sur cette question d'héritage. Pourquoi? Parce qu'elle serait réputée être un peu bécasse, justement, une femme de ménage, en retard sur son temps. Et bizarrement, quand on travaille pour de vrai les récits de Bécassine, on est sur un récit complètement inversé. Dès sa création, en 1905, la scénariste est une femme. C'est la rédactrice en chef à l'époque de la Semaine de Suzette qui crée ça avec Pinchon. Bécassine conduit une voiture, conduit un avion. Bécassine s'engage lors de la Première Guerre mondiale. Bécassine résiste aux pressions de ses patrons et du monde petit bourgeois dans lequel elle évolue. Et c'est plutôt une moquerie par le scénariste suivant, Comrie, de cette dimension un peu ridicule de ce monde fermé. Donc finalement, Bécassine serait plus moderne que l'on imagine et on aurait de bonnes raisons de s'y intéresser. Moralité, on a demandé aux étudiants de la licence 3 métiers de la bande dessinée d'interpréter Bécassine et 9 d'entre eux se sont prêtés à l'exercice. Ils arrivent tout à fait à la sortir du moule de l'époque puisqu'elle se retrouve selon les fois ou à Pôle emploi ou à vendre des produits peu licites sur le trottoir. Mais en tout cas, le fait de la réinterpréter montre qu'il y a quelque chose qui peut se jouer avec ce personnage faussement naïf. C'est évident. Puis on a demandé aussi à 4 auteurs de bande dessinée professionnelles, deux autrices amiennoises, Alexis May et Anne-Claire Giraudet, David Perrimoni, qui est d'ici aussi, et puis Jean-Philippe Perrault, de donner leur vision. Et là aussi, on arrive à des choses extrêmement intéressantes. Le tout est présenté à la Maison de la Culture dans le cadre d'une journée d'études qui est consacrée le samedi 2 avril à Bécassine, là par des spécialistes, j'ai envie de dire, du culte de Pinchon.
Et justement, c'est un temps fort qui va résonner avec le 2 avril, qui est une journée consacrée au créateur de la BD française, Bécassine, et qui s'inscrit dans les 48 heures de la BD également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces événements? Qu'est-ce que c'est que ces 48 heures?
Alors, on part d'un événement qui est a priori est plutôt une dynamique commerciale. Des éditeurs se disant qu'il faut renouveler le lectorat de la bande dessinée. Ce n'est pas bête. Face aux écrans, face aux propositions multiples auxquelles on peut être soumis, l'idée des fois d'avoir des bandes dessinées plus accessibles que le tarif usuel pourrait être une bonne idée pour donner envie de lire. Et pour une fois, un événement commercial finit par engendrer derrière une dynamique vertueuse, en particulier en direction des scolaires. Il y a énormément de livres qui sont offerts par les maisons d'édition concernées à des structures relevant du champ social, du champ du handicap. Il y a des fiches pédagogiques qui sont réalisées sur les albums. Il y a des interventions d'auteurs pendant 2 jours, le 1er et le 2 avril. Donc on part de l'idée de donner un temps fort bande dessinée qui soit en dehors d'Angoulême. Et cette idée-là finalement finit par irriguer. Il y a 3 auteurs de bande dessinée qui viennent signer sur Amiens, chez Bulenstock, Cocor, Perrault et Roma. Perrault et Roma qui font un atelier chez Bulenstock. Je pense qu'il reste peut-être encore quelques places le samedi matin pour s'y inscrire pour le jeune public, pour apprendre à faire de la bande dessinée. Il y a également pas mal de podcasts, pas mal d'émissions live, du dessin live, des discussions avec des auteurs dans ce cadre-là. Donc finalement, ça a accouché d'un quelque chose qui va au-delà du champ commercial.
Et sur ces œuvres qui sont plus accessibles, on a lesquelles par exemple ?
Alors, et il se trouve que la fameuse petite maison d'édition qu'on a, les éditions de la Gouttière, a pu proposer deux titres cette année. On a la bande dessinée Linette, qui est une bande dessinée sans texte pour les tout petits. Donc pour nous, c'est important. C'est forcément, quand on vend des bandes dessinées à 2 euros, on perd de l'argent plus qu'autre chose. Mais l'idée étant de toucher des lecteurs, des nouveaux lecteurs. Et avec ces bandes dessinées sans texte, on veut vraiment toucher un lectorat et des parents qui ont envie de montrer de la bande dessinée à leurs jeunes enfants qui ne sont pas encore lecteurs. Et on a ensuite la bande dessinée Sixtine, dont le scénariste Frédéric Maupomé a déjà remporté de nombreux prix avec ses publications chez nous, dont la série Super, et puis il travaille sur Anouki, autre bande dessinée muette aussi. Et Sixtine, c'est plutôt une bande dessinée qui est dédiée aux 9-14 ans comme lectorat principal. Après, c'est une bande dessinée tout public et de qualité pour cet âge-là. Tout le monde peut la lire, et on a de nombreux lecteurs adultes aussi. C'est vraiment une quête d'identité chez ce personnage. C'est l'histoire d'une petite fille qui, au tout début du premier tome, renverse les cendres de son père dans la mer. Elle vient de le perdre, et puis en quête d'identité, elle va retourner sur les traces de ce père qui était magicien, dont elle pense à l'origine qu'il était magicien manipulateur, mais dont elle comprend petit à petit qu'il avait sûrement d'autres pouvoirs, et que la raison pour laquelle la famille de ce père ne veut plus lui parler, ni à elle ni à sa mère, a plus des raisons avec cette question de magie, justement. Donc c'est une histoire très très forte sur l'identité, et qui s'adresse aussi à un jeune lectorat.
Ces 48 heures se déroulent donc le 1er et 2 avril, et nous avons le 1er avril, le dévoilement de l'affiche du festival et la venue des trois auteurs, comme vous l'avez dit.
Alors pour le dévoilement de l'affiche, ça se fait avec un certain nombre de partenaires culturels, institutionnels, avec des auteurs du CRU et avec l'association, mais ce dévoilement va avoir lieu dans la foulée sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on va... On va tirer un rideau et on va montrer effectivement l'affiche de Denis Bagerin, mais dans la foulée, le 4 avril, toute la programmation sera en ligne sur le site web des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Donc cette affiche, moi je la connais forcément, on l'a déjà travaillée, maquettée, ça tape assez fort. Je peux donner un indice, Denis Bagerin, qui est connu pour une grande série de science-fiction, une double série de science-fiction, qui est un peu la série majeure des 20 dernières années, il s'appelle UW1, UW2, Universal War One, où il imagine que le prochain conflit sera non plus planétaire, mais interplanétaire, et mettra en danger la planète elle-même, pourvu que ça ne soit pas excessivement prémonitoire dans les temps proches. Est également un fan, depuis qu'il est tout petit, d'un héros qui passait en télévision, qui est Goldorak. Et il a réussi à obtenir, rêve d'enfant réalisé, les droits de Gonagai, le créateur d'origine de Goldorak, pour faire un Goldorak à la française. Et ils ont donc sorti l'année dernière ce Goldorak français. C'est une équipe, il a travaillé avec un co-scénariste, avec d'autres dessinateurs, un spécialiste de la couleur, Johan Guillot, Cossu, Saint-Enac. Enfin voilà, vraiment une dream team qui a bossé cet album, qui est très très réussi, qui est assez déroutant, parce que par rapport au dessin d'animé d'origine, il y a une dimension psychologique très 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 forte, très très marquée, qui correspond vraiment à la bande dessinée moderne. Un livre qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires l'année passée, donc c'était un des best-sellers de l'année, et il a obtenu les droits pour quelques dessins dérivés de réutiliser ce personnage de Goldorak. Donc après le passage de Batman à Amiens, c'était en 2019 avec Enrico Marini, là cette fois-ci, il semblerait bien qu'il y ait quelque chose de Goldorak qui se pose sur la ville.
Donc on vous laisse imaginer à votre guise. Et pour le festival de la BD, est-ce que vous avez quand même un ou deux noms d'auteurs qui sont présents à donner ?
Oui, je peux tout à fait lâcher quelques noms, faire un petit peu de name dropping. Il y a une série qui a... Je prends des noms d'auteurs qui viennent pour la première fois.
Oui.
Il y a une série qui nous a énormément marqué dans les années qui viennent de s'écouler. Ça s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est chez Ankama, l'éditeur lillois. Ce sont des bouquins assez incroyables où la construction de la page elle-même ressemble souvent à la tête de Sherlock Holmes, dans lequel il y aurait des appartements qui viendraient des cases avec la séparation. C'est un livre-objet, c'est conceptuel et en même temps c'est très bien scénarisé. Donc Dahan et Liéron, les auteurs de cette bande dessinée majeure, seront parmi nous lors des rendez-vous. Et puis on peut parler du pape de la bande dessinée moderne. On a longtemps dit que, enfin, on l'a longtemps cité comme étant la nouvelle bande dessinée, mais ça fait quand même très très longtemps qu'il est sur le marché. Il a plus d'une centaine d'albums à son actif, c'est Lewis Trondheim, le grand Lewis Trondheim des carottes de Patagonie, où il invente avec la maison d'édition, l'association, avec d'autres évidemment, mais où il invente un petit peu cette nouvelle bande dessinée qui va être parfois autobiographique, parfois expérimentale, et donc avec sa série un peu plus célèbre, Lapineau par la suite, puis la série Donjon également qu'il fait avec Johan Svar. Et bien voilà, il vient pour la première fois sur les rendez-vous de la bande dessinée cette année, et puis on peut parler aussi, par exemple, de la venue de la venue, même s'il était venu une fois en tant qu'auteur d'Ariol, la venue d'Emmanuel Guibert, Grand Prix d'Angoulême de l'année passée, qui sera parmi nous aussi, à la fois parce qu'il y a une exposition sur les séries jeunesse des éditions Bayard, dont Ariol, mais aussi pour parler du reste de son travail, le photographe, et puis également de sa passion pour l'art contemporain et pour un artiste contemporain en particulier qu'il va mettre en valeur en partenariat avec le FRAC Picardie.
Et pour revenir un peu sur les 48 heures de la BD, est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer aux ateliers et surtout, où est-ce qu'il faut s'inscrire?
Alors, l'atelier, oui, c'est une bulle en stock. Et s'il n'y a plus de place pour celui-ci, il y aura d'autres ateliers. On est vraiment dans une période où les bonnes librairies vont largement au-delà de simplement poser des livres de nouveautés sur les tables et essayer d'avoir du réassort et pouvoir commander un livre rapidement. Et s'inscrit vraiment dans une logique d'animation, et c'est complètement le cas de Bulle en Stock, mais c'est le vrai aussi des autres librairies indépendantes à Amiens, que ce soit Martel, Le Labyrinthe ou Page d'Encre. Et donc, dès la semaine suivante, chez Bulle en Stock, si vous n'avez plus d'atelier pour votre enfant, pour votre jeune ado, il y a des propositions et il y en aura encore dans les semaines qui suivent. Bref, il y a vraiment une ouverture de ce côté-là avec quelque chose de nouveau, avec une nouvelle façon de considérer la librairie comme étant un endroit aussi où on peut venir parler, faire de la bande dessinée et échanger.
Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à l'émission.
Merci.
Et je vous dis à bientôt.